je pense avant tout, je respire avant tout. C'est là que je venais avec papa et qu'on s'asseyait et qu'on observait. Et il en a fait, on en a fait un petit dicton.
CO2, mon amour.
N'oublie pas que lorsque tu vas dans la nature et que tu veux l'observer, pendant la première demi-heure, c'est la nature qui t'observe.
Avec Denis Chessoux.
Après, et seulement après, tu fais partie d'elle, tu te fonds et tu te confonds. Et c'est à ce moment-là que la vie sauvage se révèle à toi.
Sur France Inter.
La vie n'est qu'un passage, et sur ce passage, au moins ce monde des fleurs. Merci à Montaigne de l'avoir écrit dans ses essais. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir. C'est le moment nature de France Inter, CO2 de mon amour. Bah oui, maintenant depuis 3 ans, résolument nature, la nature qui chuchote à vos oreilles. À la technique, Julien Dumont, et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Commence par une petite humeur, parce que cette semaine, figurez-vous, on aura droit à la journée mondiale sans paille. Alors certes utile, mais je vais me focaliser sur celle du 2 février, journée mondiale des zones humides. Alors sans paille dedans, on est d'accord, mais il y a longtemps que les animaux ont compris, les hérons, les avocettes, les visons, les crapauds ont arrêté de boire leur demi avec une paille. Ponto de Mer dans l'Eure est le 52e site français à être labellisé Ramsar pour les 50 ans de cette convention internationale de protection des zones humides, donc signée à Ramsar en Iran. On ne sait pas où c'est, c'est au bord de la mer Caspienne. Et donc vendredi, Ponto de Mer a reçu son label. Elle peut être très fière. Une zone humide, vous voyez, c'est un amortisseur climatique, un nettoyeur, une roselière, ça vous filtre les phosphores, les nitrates, les hydrocarbures, bref, toutes nos saloperies. Capte le CO2 avec ou sans amour, et c'est aussi une assurance eau. Et puis, un lagon, une mangrove, un littoral, un bord de rivière, un lac, une tourbière, c'est tout simplement beau. Donc, jamais larguez vos mares. Quoi, il y en a marre, mais je me plains pas, j'explique. De tout temps, ça n'a jamais été facile d'être une mare ou un marais. Ah, j'ai tout entendu, on m'a dit que j'étais un salubre terrier à grenouilles, lupanard à crapauds, lavabo des sorcières. On m'a comblé pas d'aise, non, mais avec des gravats. On m'a asséché, drainé. Quand je suis prairie humide, on me retourne et on plante du maïs car c'est plus rentable. Bref, on me bâillonne pour m'empêcher de faire chanter ma vie qui est multiple. Délit de sale gueule, oui. Oh, je donnais soi-disant la fièvre, comme mes amis des marécages. Marécage, une mare en cage, quel karma. Alors bien sûr, on a quand même quelques stars qui redorent notre blason, la Camargue, la Brenne, la Dombe. Poids de vin du Marais, la Dame de Nantes. Georges Sand dans le Berry nous a gratifié de la mare au diable. Eh oui. Alors dans ce monde à la recherche du point de croissance, des hommes qui murmurent à l'oreille du PIB, des Indiens Dow Jones qui décaissent la vie dans les EHPAD et un peu partout, qui tapent dans le capital terre et qui encaissent en écrivant les fleurs fanées du mal, c'est quoi une mare? Les oiseaux, ils savent. Ils m'ont toujours repéré. Je brille au soleil comme un œil attirant. Ils descendent du ciel pour boire quelques gouttes de ma vie. Et ces emplumés m'ont toujours recherché. Ce qui vous permet d'ailleurs ce week-end encore de les compter. Demain, après, avec l'effet de serre qui galope comme vos chevaux dans les prés, après nous avoir drainés, urbanisés tout l'été, quand la bise et surtout le réchauffement massif seront venus, comment danserez-vous? Vous qui avez depuis longtemps ce don inné de détruire ce que la nature vous a donné, vous serez content, non loin de vos longères, de retrouver votre mare. Je suis lié, oui, à votre histoire. 40% de la biodiversité, c'est nous qui la fabriquons. Je suis une station d'épuration à moi toute seule. Alors vive les zones humides et les agriculteurs, éleveurs qui travaillent avec et dessus. Larguez les amarres si vous voulez, mais ne larguez jamais les mares. Sinon, vous vous larguerez vous-même. Une émission résolument qui relie les femmes, les hommes à la nature. Alors pas de mare à son sommet, mais des sources qui naissent dans les flancs de ce château d'eau calcaire, le Mont Ventoux, comme ça pour le plaisir. Petit pain de chaleur tourné dans le chaud de l'été, ça va nous changer du froid, le gris plus ou moins brouillardeux de cet hiver. Thank you. Alors non, ça n'a pas été du tout composé du côté du Ventoux. Ça, c'était la playlist. C'était Parcels sur France Inter. Et maintenant, je vous l'ai dit, il est là. Il nous attend. Il est merveilleux. Il s'étale comme ça dans le Vaucluse. Le Mont Ventoux par différentes faces.
Nous sommes dans le Ventoux Nord. Et le Ventoux Nord, il a cette particularité, c'est d'être assez humide, puisqu'il est quand même plus ou moins protégé des rayons du soleil. Alors vous avez, même dans cette période qu'on dit être une période de canicule, alors vous avez une herbe verte, vous avez des arbres qui paraissent vigoureux, vous avez une nature qui vit. Hein, et on a envie d'ailleurs de quitter le chemin sur lequel nous sommes et puis d'aller se perdre un petit peu là, entre les arbres, au milieu des grandes herbes. Il me semble que quand je suis avec quelqu'un dans une montagne que j'aime, le Ventoux, peut-être d'autres lieux quand même, eh bien, les liens entre moi et l'autre personne se resserrent davantage. Donc c'est pour ça que je dis que le Ventoux, il est complice de ce qu'est ma propre existence. Et il rend à l'amitié que je puis avoir pour d'autres personnes, ou à l'amour que j'ai pu ressentir pour d'autres personnes, il lui donne une résonance beaucoup plus profonde.
Le Ventoux est né avec des cheveux blancs. Ah ben ouais, c'est comme ça. Dès son berceau de son accouchement géologique. De la neige sur son front nord et sud en hiver. Et puis calvitie calcaire, blanche en été. Le Ventoux, c'est un copain personnel de ma bicyclette. Gravi la première fois quand il portait un gamin de 16 ans en quête de mythe. Alors, le Ventoux est connu du grand public par le Tour de France. Il se serait bien passé d'avoir contribué au dernier souffle de Tom Simpson, premier mort officiel du dopage en 1967, qui avait un peu chargé la mule, mais qui sommes-nous pour juger? Mais au-delà des trois routes qui mènent au sommet, il y a des centaines de sentiers pour les pieds. En 1336, Pétrarque, qui n'avait pas une carte des GR, l'a monté sans vélo, puis poétisé. Jean-Henri Fabre, Aveyronnais du Vaucluse, y a herborisé, voyant en lui une couche de pierrailles émaillée de fleurs. Alors le loup aussi s'est laissé séduire il y a quelques années. Bon, évidemment que ça cohabite pas forcément très bien. Et puis Nicolas Huguetto, photographe talentueux, leur a tiré le portrait. Paul Père, que nous avons entendu, prof de lettres et naturaliste, est né à Malocène. Son père, d'ailleurs, en 1930, était un des premiers skieurs du Ventoux, sur le côté nord, du côté du Mont-Serein. Mais comme il aime bien les mots, cet homme, avant de s'appeler Monsieur Ventoux, on disait qu'il s'appelait Monsieur Vintur.
D'abord, il faut savoir que le Vintur en question, si on le retrouve dans des inscriptions, c'est qu'il a été divinisé. Donc les gens voyaient une sorte de personnalité divine, mais personnalité quand même. C'est-à-dire qu'ils considéraient que c'était à la fois une montagne tutélaire qui protégeait, on était à l'abri du Ventoux, et puis de notre côté, une montagne qui faisait peur aussi, parce que c'était la montagne des orages. Donc il avait cette double fonction, là, un peu contradictoire. Quant à moi, oui, je dirais que moi je le personnifie. Mais pourquoi je le personnifie? D'abord j'aime la nature, mais nous sommes nombreux à aimer la nature. Mais parce que j'ai plein de souvenirs. Dans d'autres montagnes, j'admire, parce que je fais beaucoup de randonnées dans les Alpes et ailleurs, j'admire, je prends un grand plaisir. Bon, mais quelquefois je suis passé une fois, deux fois dans certains endroits. Donc je n'ai pas eu le temps d'acquérir, de lier avec cette montagne-là des liens intimes. Alors que le Ventoux, j'y suis né, j'y ai connu diverses sortes d'aventures, amicales, amoureuses, etc. Et donc, il a été complice, il sait tout sur moi, ce Ventoux.
Qui a nommé le Ventoux, c'est-à-dire ce mont des vents?
Non, ça c'est une vieille histoire. Non, ça n'a rien à voir avec le vent. au Moyen-Âge, on l'appelait le Mons Ventosus, le Mont Vanté, mais c'est une sorte de réinterprétation d'un vieux mot qu'on trouve sur des inscriptions et qui est Wintour. Wintour, c'est cette montagne sur laquelle nous sommes et qui ressemble d'ailleurs au provençal Ventour. Il y a un R à la fin. On dit Ventour en provençal avec R.
Oui, mais ça veut dire quoi, Wintour?
Alors là, vous posez une question difficile parce que ça ne vient pas du latin, c'est antérieur au latin. Donc il faut remonter aux langues gauloises ou même pré-gauloises.
Il y a un rapport avec le vent quand même?
Non, pas du tout. Non, le mot vent, il vient du latin et c'est un mot antérieur au latin. Alors on pense que ce mot qu'on retrouve dans d'autres toponymes, eh bien on pense à une vieille racine wint, qui désigne une montagne repère, une montagne qui se voit de loin, une montagne qui émerge.
D'accord.
Et une montagne qui servait pour les gens à savoir un peu où ils étaient. À l'époque, il n'y avait pas de GPS, hein, ni de carte IGN. Donc on arrive à cerner un petit peu le sens du mot, si on le définit comme tel, la montagne blanche, évidente, par sa hauteur, par sa couleur en quelque sorte, qui se voit de loin.
On a quand même juste à côté de nous là, le col des Tempêtes, quand le Mistral s'y met, face à Bastogne, véritablement. Hein.
Ah oui, le col des Tempêtes est une appellation récente, elle date du développement touristique du Ventoux, mais elle s'est bien implantée et surtout c'est une appellation qui est bien méritée.
Et oui.
Parce que moi il m'est arrivé, dans ce Ventoux, d'être obligé à un moment donné de mettre à quatre pattes, parce qu'on ne tient pas debout.
Ouais, ça...
C'est vrai, ça arrive. Hein. Et un peu plus loin, un peu plus haut, vous avez ce qu'on appelle alors, la Baume d'Auvin, la grotte du vent, plus communément connue sous le nom de Trou Soufflant. Et l'été, quand il fait très chaud, il y a un souffle de vent qui passe de l'intérieur à l'extérieur, à cause des différences de température. On voit même les herbes qui bougent quoi, à l'entrée de la grotte, à cause de ce petit souffle de vent. Ce petit souffle de vent, il est devenu tel dans l'imaginaire des gens, que les descriptions que l'on a de cette grotte, là, dont je vous parle, font de cette grotte l'origine de tous les vents. Le Mistral, ceci, cela, le reste. Tous les vents de la région sont partis de ce trou.
Vous ne saviez pas, ça vient de là. Tous les vents, mais même peut-être ceux du monde entier, c'est le nid des vents. Là.
C'est le nid des vents.
Oui.
Ben, c'est exactement le mythe de la caverne d'Éole.
Ben voilà.
Il y en avait une à Nyon, ce de caverne d'Éole. Oui, tout le monde avait
sa caverne d'Éole.
Voilà.
Oh, mais ça, c'est la vraie, ça.
Ah, ben c'est la vraie.
Il y a la véridique, il y a la vraie.
Non, mais celle de Nyon, c'est même pas la peine d'en parler.
Non,
ça, c'est la vraie.
Le joli bleu, joli, joli, le bleu lavande, je ne demande qu'un peu de bonheur pour tout.
Alors là, on fait une pause, respiration. Là, c'est pas du lavandin, hein, ça.
Non, c'est la lavande sauvage, qu'on appelle aussi la lavande fine.
Voilà.
Les botanistes l'appellent lavandula angustifolia. Et c'est celle qu'on trouve en altitude. Il y a deux sortes de lavande qu'on trouve dans nos montagnes. Il y a la lavande fine, celle-ci, qui est la meilleure, incontestablement. Et plus bas, on en trouve une qui est beaucoup plus imposante et qui s'appelle l'aspi, parce que ouais, ça fait des épis, en quelque sorte. Voilà.
Elle est rare, comme la lavande de montagne.
Elle devient rare par la faute des reboisements, parce que la lavande fine, elle poussait surtout dans les endroits complètement déboisés. Les endroits lavande, c'était un écosystème qui était très sec et ouais, vide d'arbres. Alors que maintenant, elle a du mal à trouver sa place.
Ouais. Ouais. Hop. Bon. Il vaut mieux pas dévisser, là. C'est pas que ce soit, hein. C'est pas les Drues ou les Grandes Jorasses, hein, faut pas. Mais quand même...
D'ailleurs, on peut se rappeler Pétrarque, qui, dans sa fameuse lettre sur la montée au Ventoux, dit qu'il était très ému en regardant donc à l'est du Ventoux les montagnes italiennes. Et c'est vrai qu'on voit très bien les montagnes italiennes, le Viso, etc. Mais quand il parle sérieusement, il le fait en latin. Donc la montée au Ventoux, comme c'est une quête mystique, il le fait en latin.
Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Parce que ça fait partie des premiers écrits, en fait, sur le Ventoux.
C'est le premier qui parle du Ventoux. C'est le premier qui en parle en faisant une fausse étymologie, puisqu'il dit que le Ventoux, Mons Ventosus, porte très bien son nom.
Oui.
Alors qu'on sait bien que ce n'est pas la véritable étymologie, mais on ne va pas le lui reprocher.
Alors c'est aussi un coin de chamois, hein, quand même, ici.
Ah oui, il y a beaucoup de chamois. Alors ils ne sont pas du tout sauvages, ces chamois. J'ai même une photo... ou une amie avec laquelle je faisais une balade dans l'est du Ventoux, là-bas, elle donne un chamois, un petit chamois, il faut dire, une tranche de pain, et le chamois vient manger dans sa main.
Ah, d'accord.
Bon, c'est sympathique, hein, voilà.
C'est pas mal.
Il est vrai que ce sont des chamois qui n'ont plus de prédateurs, ils ne sont pas chassés, donc finalement, ils sont tranquilles.
Alors on est quand même au cœur d'une réserve biologique intégrale, c'est-à-dire qu'en fait on laisse faire la nature et après on observe tranquillement. Quoi.
Alors la réserve biologique intégrale
n'existe
qu'ici,
voilà,
c'est-à-dire dans cette zone du Ventoux Nord, c'est une réserve qui correspond botaniquement à une strate végétale du Ventoux Nord pièce qu'on appelle la hêtraie sapinière, ouais. C'est-à-dire marquée traditionnellement, si on ne parle pas des reboisements qui ont eu lieu après, mais traditionnellement marquée par la présence de hêtres et de sapins. Or, il se trouve que dans cette partie du Ventoux Nord que nous avons devant les yeux, là, eh bien, il y avait pas mal de zones difficiles d'accès, donc qui ont été protégées contre toutes les volontés d'exploiter la forêt pour diverses raisons, ne serait-ce que pour faire perdre les moutons d'abord, parce que quand il y a un arbre, il y a moins d'herbe, ensuite pour faire du bois pour l'hiver, etc. etc. Il y a mille raisons que l'on a eues de déboiser le Ventoux, si tant est qu'il était tellement boisé, ce que discutent actuellement les spécialistes de la question. Mais là, vous avez, dans cette zone-là, au-dessus de la vallée du Toulourin, vous avez une présence de grandes taches noires qui correspondent à cette hêtraie sapinière qui a été préservée et qui est maintenant incluse dans toute la forêt du Ventoux et qu'on protège justement en faisant une réserve intégrale. On a monté tout ça.
Eh bien, on a monté tout ça. On a monté tout ça pour y arriver.
On peut continuer là et puis on tournera.
Oui.
Oui.
Ce n'est surtout pas fini. On va poursuivre le voyage avec Chris Barbe, naturaliste, et puis Nicolas Huguetto, qui est un formidable photographe. Et là, eh ben, on va traverser le Rhône, ouais, et on va partir. On va rester dans la langue d'oc, tiens, tenez, avec cet homme.
Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. À travers mes paupières entrouvertes, l'air bleu. Ton visage à l'envers sur ton buste, un baiser que tu me donnes à boire, à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre, un signe. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Tu me disais, je t'aime, que ce verbe m'émeut. Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste l'eau de vie de pomme, de prune, de poire dans la toile étoilée de l'Auguste Renoir. Gorge qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, une plume de cygne. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Dans mes yeux, un triangle superbe. Tes yeux, puis le soir obscurcit la pelouse, pour l'oiseau laissons les gâteaux secs, c'est parfait, on repart à Toulouse, Lautrec. Papaya de
a fumé un petit peu d'herbe là pendant son déjeuner. C'est une façon donc d'herboriser, c'était ça. Donc il aurait pu convoquer Manet, mais là ça a été plutôt donc Renoir, et c'était bien sûr Claude Nougaro.
Je vois aux collines odorantes, je vois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires.
C'est au de mon amour.
Je vois à l'azur, à la mère nature.
Sur France Inter.
Alors toujours avec ce Mont Ventoux, c'est un rempart, on le sait, solitaire, hein, qui domine le Vaucluse. Alors les gens de la plaine le regardent avec la même ferveur que les Japonais contemplent leur Fujiyama. Ça, c'est quand on est très positif. Mais il y a quand même un petit peu de ça. Alors là, on a un peu quitté donc Lubac, c'est-à-dire ce côté sauvage, avec Brantes, Saint-Léger, la vallée du Toulourin que donc à nos pieds. On est redescendu et là, on va se retrouver donc avec Chris Barbe, qui est simplement une randonneuse, qui est simplement une naturaliste. Elle aime les plantes. Voilà, c'est tout. Et donc, on est quand même dans un coin où vous avez près de 1000 espèces de plantes, vous avez une centaine d'oiseaux. Et puis Jean-Paul Kléber, qui était un écrivain formidable, nous rappelait que le Ventoux, c'est un triangle parfait qui en fait un axis mundis par où communiquent les forces telluriques et célestes. Et c'est vrai qu'il se passe quelque chose lorsque l'on est sur ce Mont Ventoux. Et donc, avant de rejoindre Nicolas Huguetto, Chris Barbe avec nous, qui adore ce coin, on est au pied du Ventoux.
Ici, on est à la hauteur du Sainte-Colombe, on est au milieu des vergers, entre vergers et vignes. Alors, à notre gauche, on a des cultures de cerisiers magnifiques. Ouais. Et à notre droite, qui descend vers le vallon de la vigne. Et ensuite, les pruniers, les abricotiers qui remontent.
Bon, le thym, la sarriette.
Thym, sarriette, romarin, un tout petit peu plus haut, le romarin. On va passer devant après, et là, c'est pareil, hein, c'est généreux, c'est plein d'odeurs. Il suffit que quelqu'un marche dessus, juste devant nous, et ça explose dans les narines. Oui, on adore.
Quand on marche dessus, en fait, on ouvre un flacon, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis tu vois, là, vous voyez, là, il y a un olivier. Ouais. Un olivier, cette année, c'est bien, cette année, elles sont belles, les olives. L'année dernière, elles avaient du mal, elles avaient attrapé
la mouche. Oui,
et ça. Oui. Donc là, cette année, on va avoir des olives, donc de l'huile d'olive.
Voilà.
Je crois que vraiment, dans ce Vaucluse, on a tout. Hein.
Ah, et puis il y a quand même ce qu'on appelle la farigoule aussi.
Et oui, et qu'on appelle ici du bébré d'ail. Ben
voilà.
Voilà, qui est vraiment le complément indispensable de la cuisine provençale.
Ouais.
C'est une merveille.
Alors on va grimper, et on va aller un peu plus haut, parce que là, on voit quand même la ligne de crête, on va essayer donc de l'atteindre. Allez,
oui,
on
voilà,
y va.
Un beau dénivelé qu'on va faire tranquillement, petit à petit. Parce que là, on est environ à 400 mètres. Et là, je veux vous emmener, on est quand même à 1910 mètres,
c'est
puisque
ça.
Le haut du Ventoux est en 1912.
Ou 12, oui. Alors Chris, ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, vous voyez, on sort un peu à découvert et on est devant une combe. Et des combes, il y en a plein, en fait, qui viennent cisailler, qui viennent taillader ce Ventoux.
Alors après, la combe que j'aime énormément, c'est la combe qu'on trouve à la hauteur du Jas des Mélettes et qui s'appelle la combe de la Grave et qui nous conduit directement à la fontaine de la Grave qui coule, qu'on va prendre d'ailleurs, hein, cette combe de la Grave, tranquillement, parce que ça, il y a un beau dénivelé. Et on arrive donc sur la route qui monte au Ventoux, sur le côté calcaire du Ventoux. Et là, il y a une fontaine qui coule toute l'année à 4-5 degrés, complètement gelée, quelle que soit la chaleur qu'il peut y faire. Et c'est une merveille, les randonneurs s'y abreuvent et on est toujours très contents de s'arrêter là.
On regarde, on doit être à peu près à 1800, maintenant 1800 mètres d'altitude.
Alors là, on est à une hauteur avec des prairies sèches,
ouais.
Où on trouve en ce moment énormément de carlines en fleurs. Ces carlines, ce sont des genres d'artichauts, d'artichauts qui poussent au ras du sol et dont les papillons et les
insectes sont dingues de ça.
Absolument friands et ça se bouscule là-dessus.
Ouais.
On a encore quelques carottes sauvages.
Ah oui, carottes sauvages, attendez, bougez pas parce que... Ah, là, ça y est.
Voilà, il y en a là un petit peu plus loin.
Oh, bah, elle est sauvage, mais elle est pas partie.
Non, elle est pas partie.
On est arrivé en courant.
Et dans le temps, les gens pouvaient manger les racines. Ah oui. Et la carline, les gens pouvaient manger le cœur comme les artichauts. Voilà, il s'en nourrissait. Il savait regarder un petit peu.
Eh ben, c'est ça.
Et sur ces carlines, on voit très 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 souvent des nombres de papillons, comme sur les chardons violets, dont l'Apollon. Cet Apollon magnifique, qui est un grand grand papillon. On va en voir, je pense, tranquillement, parce qu'ils adorent ça.
Écoutez mon pépère, écoutez l'Apollon.
Et ce papillon, il est blanc,
bon,
légèrement transparent, avec de grandes grandes ailes, très souples, et des taches rouges et noires.
Il n'est pas sur nous, mais enfin, il est à 10 mètres.
Voilà, il est à 10 mètres, ouais. Il est sur le chardon violet qu'on voit là-bas. Et c'est une merveille.
Un bon petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons, à la chasse aux papillons.
Là, je vais vous emmener un tout petit peu plus haut.
Ouais.
Et on va.
On peut encore. Ah oui, encore un peu. On peut encore un peu.
Là, on va complètement dans le pierrier. Et dans ce pierrier, on trouve encore des pavots du Groenland, qui sont de la famille des coquelicots, mais qui ont de toutes petites tiges, parce qu'ils s'adaptent au climat, bien évidemment. Et donc, ils sont jaunes, quelquefois orange, de temps en temps et rarement un blanc. Et là, il y en a plein. Parce que j'entends toujours dire, dans ces pierres, il n'y a rien. Il y a que le ventoux, c'est du caillou.
Non, il y a des gens qui n'ont pas les yeux, c'est surtout ça.
Oui, c'est ça.
Hein, voilà.
Mais il y a des merveilles dans ces cailloux, encore faut-il avoir envie de les voir.
Et là, on a une toute petite, toute rose.
Oui. Alors ça, ce sont des
cailloux,
des ibéris de Candolle, qui fleurissent en juillet et août, quelquefois. Ibéris de Candolle.
D'accord.
Ça fait des petites rosettes rose pâle, des petites touffes de quelques fleurs, et ça s'étale comme ça au creux des cailloux.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a juste un tout petit peu d'humus qui est arrivé, de l'eau, et elles tiennent le choc.
Ah oui, et elles s'enfoncent vraiment très, très, très profondément, parce qu'il faut résister à des vents assez forts qui sont là-haut, des températures extrêmes, des amplitudes de température énormes. Et là, elles s'enfoncent très profondément avec des très, très, très grandes racines, et elles vont chercher leur nourriture et leur enracinement et leur solidité.
Un peu comme la vigne qui est tout en bas et qu'on devine.
Et oui. Un petit peu plus loin, on va trouver quelques campanules des Alpes. Alors, elles sont extraordinaires, ces campanules, parce qu'elles ont une tige de quelquefois 1,5 cm. Elles ont une fleur de 5 cm de long. Là, il y en a quelques-unes. Il y en a encore une petite touffe.
Encore vu. Ah, ça y est, là.
Bien que ce soit vraiment la fin de la saison, elles ont plutôt tendance à fleurir au mois de juillet.
Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour l'auditeur de France Inter
Mais oui.
Ben merci beaucoup aussi, Chris.
Merci à vous. Merci d'être venu dans ces paysages que j'aime autant. Vraiment.
C'est pas mal, dites donc, des lavandes sauvages, puisque nous sommes en altitude, pour rejoindre le regard de Nicolas Huguetto. J'ai dit le regard parce que cet homme-là donc, est photographe. Il nous attend dans ce coin, dans son coin du Ventoux. Bonjour Nicolas Huguetto.
Bonjour Denis.
Oh là là, alors là, c'est un autre coin du Ventoux extraordinaire que vous nous présentez. C'est votre coin, donc sur le côté de Sault, S-A-U-L-T. Vous êtes quasiment né, vous, ici, dans ces replis de ce Ventoux.
Presque. J'aimerais y être né. Je serais encore plus ventouman, comme diraient certains.
Oui.
Non, là, on est au cœur d'une de ces combes mythiques qu'on appelle la combe de Font-Margaux. C'est là que je venais avec papa et qu'on s'asseyait et qu'on observait. Et on en a fait un petit dicton. N'oublie pas que lorsque tu vas dans la nature et que tu veux l'observer, pendant la première demi-heure, c'est la nature qui t'observe. Après, et seulement après, tu fais partie d'elle, tu te fonds et tu te confonds. Et c'est à ce moment-là que la vie sauvage se révèle à toi. Donc il faut imaginer le petit Nicolas, dès l'âge de 10 ans, avec les jumelles, à observer là où on est, les chamois, les mouflons. Là, on a le perchoir de l'aigle royal. On a les renards qui peuvent débouler à tout moment. C'est... À votre opé. Et là, on va donc rappeler que ce mouflon, dont bien sûr a été réintroduit, bon, c'est un mouton sauvage, quoi.
Totalement, totalement. Ouais, ouais. Mais qui, par rapport au mouton, a quand même ses lettres de noblesse. Il peut être très agile.
Ouais.
Moi, j'ai été très surpris de le voir traverser et sauter devant moi les grands chemins forestiers, des pistes qui doivent faire 4-5 mètres de large, en un bond. Donc, pas si pâteau que ça.
Non.
Voilà. Avec une robe et des couleurs vraiment particulières. Les mouflons, Isabelle, comme on dit, c'est ceux qui sont tout blancs, là, dans les lumières matinales. Ils sont fantastiques.
Ça vole en plus en face de nous là-bas.
Ah ouais, ça vole. Alors sur une aire,
il doit être là-bas.
C'est pas du Milan là.
C'est du cresserel, c'est du faucon cresserel qui nous passe sous les yeux là, tout doucement. Il est assez haut d'habitude, ils sont beaucoup plus bas quand même pour pouvoir.
Ouais ouais ouais.
Alors la chenette, qu'est-ce que c'est quand même?
Alors, il faut l'imaginer avec une queue annelée qui fait une cinquantaine de centimètres, ouais. Voilà, avec un corps tout moucheté comme la panthère, d'accord. C'est un animal que j'ai vu revenir, moi, sur ces 10 dernières années, de la famille, je pense, des mustélidés, qui est aussi bien arboricole que cavernicole, mais en fait, nos ancêtres agriculteurs l'a domestiqué pour pouvoir protéger les réserves à grains. Donc, c'est un peu l'ancêtre du chat domestique, et un animal fascinant. En fait, la photo s'est figée, mais il faut imaginer qu'il se déplace, elle se déplace comme de véritables petites reptations sur le sol. Voilà, j'ai jamais eu assez de temps pour la filmer, mais magnifique animal. Avec une particularité, la double empreinte, elle est digitigrade et plantigrade. Donc elle marche aussi bien comme les hommes que comme les chats.
Sauvage, je n'aime que ce qui est resté sauvage. Je préfère l'enfant dans les nuages. Rebelle. Sauvage, sauvage.
Mais le sauvage, et vous le rappelez aussi, ça vient quand même de sylvaticus, c'est-à-dire de forestier. Ça vient de la forêt, voilà. Et on commence doucement à se rappeler que avant, eh ben, on ne parlait pas du sauvage. Ce n'était pas la peine de parler du sauvage, c'était là, quoi.
C'était là, et puis début du siècle, au moment où on avait absolument besoin de bois pour se chauffer, au moment où il y avait le pastoralisme un petit peu beaucoup plus développé qu'aujourd'hui, eh ben, c'était l'heure des pauvres, et le bois, on se chauffait, on allait ramasser, et donc il a été totalement dénudé. Une prise de conscience...
Et puis la marine est passée par là aussi.
Exactement, totalement, c'est très vrai, c'est très vrai. Et puis prise de conscience, on a reboisé, et on lui a redonné toutes ses lettres de noblesse. Et donc naturellement, certains animaux qui eux n'avaient jamais disparu, le chamois et le sanglier, mais une prise de conscience, et on a réintroduit cerfs, chevreuils, mouflons, mais qui sont en harmonie maintenant dans cet univers très boisé. Une des problématiques du Ventoux, c'est son enrésinement. Parce que tout le monde sait que sous les forêts de pins, les grands pins noirs...
Il ne pousse rien.
Exactement. Donc il y a une prise de conscience de la part des forestiers. Il y a des grands filets qui sont tendus à certains endroits dans les forêts. Ouais. Je me suis longtemps posé les questions. En fait, c'est des collecteurs à graines et on a tendance à favoriser la régénérescence naturelle. Donc on replante des espèces autochtones et qui donc, dit feuillus, dit forcément des milieux plus propices pour tous les mammifères et les herbivores.
Comment il vous nourrit, vous, ce ventoux? Il y a bien sûr les photos, il y a le regard que vous avez développé. De quoi êtes-vous fait, ce ventoux?
De quoi je suis fait? Mais il faut imaginer que je pense ventoux, je respire ventoux. Lorsque je suis en communion avec une espèce, avec un renard, avec un loup, j'ai envie de dire que je me sens organiquement attaché à cette terre, à ce ventoux. En fait, ce sont les renards, les loups, les cerfs, les biches et les aigles, moi, qui me font vivre au jour d'aujourd'hui. Et j'essaye d'être, passeur d'émotions. J'essaye de témoigner de ce fragile équilibre sur ce territoire qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention.
Si vous souhaitez retrouver les images de Nicolas Huguetto, donc que ce soit à Sceaux, c'est bien sûr, parce qu'il y a une petite boutique qui est là, mais il y a aussi ces différents ouvrages qui parlent donc de nature sauvage, qui parlent des loups, qui parlent des lavandes. Vous le retrouvez aussi avec le lien qui est sur le site de CO2 Mon Amour, je vous le recommande. Et on a glissé une petite vidéo qu'il a aussi installée. Merci à Paul Père. Vous pouvez aussi lire les carnets du Ventoux si vous le souhaitez. À Chris Barbe, à Pétrarque qui m'a dit « Tiens, ça faut le dire, ça faut pas le dire. » Bah oui, donc je le remercie donc également. Julien Dumont à la technique, ainsi que Olivier Dupré qui a donc mixé ce reportage, qui était bien sûr réalisé par Xavier Pessugia, de main de maître, et Camille Blanès, je ne l'oublie pas, Anne Gouzon a nourri les sites, Thierry Dupin a choisi les disques, et la semaine prochaine, alors on va changer de lieu, on va se retrouver dans la Manche, avec une élagueuse, mais bienfaitrice des arbres, véritablement Karine Marcilly, un vrai personnage qui est donc tout à fait intéressant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter quoi ? Eh bien, le meilleur en cette fin de dimanche.